marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Françaises, Français, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour.
Bazin, Truffaut, critique de cinéma.
Alors, on en vient à un critique qui compte beaucoup pour vous, qui compte beaucoup dans l'histoire du cinéma, il s'appelle André Bazin. C'était plus pour vous, François Truffaut, qu'un grand critique, plus qu'un ami, c'était presque un père, hein, parce qu'il a joué un rôle assez considérable à un certain moment dans votre vie.
Oui, oui, mais enfin, c'était le plus grand critique de cinéma. Il a formé le goût du public à l'époque, à la Libération. Les critiques ne parlaient jamais de la lumière, des décors, on ne parlait que de l'histoire. On n'identifiait d'ailleurs pas le film au metteur en scène. Il a beaucoup contribué aussi à identifier le film au metteur en scène et à faire une critique plus exigeante. Donc il a eu de l'influence.
Quand Truffaut, 16 ans, alla visiter pour la première fois André Bazin à la fin de 1948, c'était après une enfance enfermée dans les mensonges familiaux, un adolescent qui avait perdu toute confiance dans le monde des adultes. André Bazin lui apparut comme, je cite, une espèce de saint en casquette de velours, vivant avec une pureté totale dans un monde qui se purifiait à son contact. Leur rencontre, décisive à un moment où Truffaut s'enfonçait dans les pires difficultés, fut éclairée par le cinéma. Bazin recommandait cependant à Truffaut de ne pas le consommer comme une drogue. Lui-même avait choisi de mettre une distance. Les films, il les analysait, avec tous les moyens de l'oral et de l'écrit, devant tous les publics de l'éducation populaire, depuis les ciné-clubs de Paris jusqu'aux usines ou aux places d'Algérie. Vint un jour où Truffaut lui dit « Je crois que je pourrais écrire un peu sur le cinéma ». Ils voisinèrent ainsi dans les colonnes des cahiers du cinéma. Puis Truffaut prit son envol dans un hebdomadaire « Art ». Alors que dans ses articles, Bazin se comportait en historien d'art et que son style était celui d'un écrivain, Truffaut, l'autodidacte, était plus offensif au risque de passer la mesure. « Un jeune voyou », disait de lui le réalisateur Autant Lara. Bazin ne se rêvait pas en cinéaste, tandis que Truffaut désirait voir sur les écrans des films ressemblant à ceux qu'il voulait réaliser. Truffaut, après avoir tourné « Les Mistons », que Bazin eut le temps de voir, commença le 10 novembre 1958 le tournage des 400 coups. Bazin mourut la nuit du 10 au 11. Il avait à peine 40 ans. Truffaut était à son chevet et le jour de l'enterrement, face à son équipe, le jeune metteur en scène était en noir.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Bernard Bastide, bonjour.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur Bastide. Vous avez vu, mais abandonnez le monsieur, revenez au temps de l'enfance. Votre premier film de Truffaut, tout de suite après Ben-Hur.
Oui, c'est L'Enfant Sauvage. Et c'est un choc. Parce que je me dis un père aussi disponible, qui apprend à lire, qui apprend à manger, qui apprend à marcher, je veux le même.
Bon, enfin, attendez, votre père n'était pas le père si cruel de François Truffaut, c'était un bon pâtissier de Nîmes.
Voilà, mais c'était un père absent, c'était un père qui travaillait la nuit, qui dormait le jour, donc je voyais peu, donc voilà.
Nîmes, c'est la ville où Truffaut a tourné son court-métrage « Les Mistons ». Vous lui avez Absolument. Consacré un livre, « Atelier Bay », et puis là, vous publiez chez Gallimard les chroniques que dans l'hebdomadaire Art Spectacle, Truffaut teint. Pendant que Hervé Joubert-Laurencin, bénédictin, publie deux forts volumes chez Macula, les écrits complets d'André Bazin, une somme qu'on évoquera en même temps que votre livre, Bernard Bastide. Mais je voudrais qu'on commence par le récit que fait Truffaut lui-même d'un épisode presque fondateur, en tout cas révélateur. Nous sommes en 1951 et le malheureux Truffaut est dans une situation difficile.
Ayant déserté l'armée à la veille de mon départ pour l'Indochine, je croupissais dans la prison de la caserne du Plex à Paris en compagnie d'une poignée de déserteurs du bataillon français de Corée. Nous étions une douzaine dans une cellule aménagée pour quatre. La chaleur d'août et l'odeur des urines qui débordaient d'une vieille boîte de conserve rendaient l'atmosphère intenable. Chacun notre tour, nous grimpions le long de la porte pour respirer l'air de la cour par une petite fenêtre. Accroché au barreau, le privilégié du moment se retourne et dit « Il y en a un ici qui s'appelle Truffaut ?» Sur ma paillasse, je me retourne et j'entends « Viens voir, il y a tes parents qui t'appellent !» plus étonné que content, je grimpe le long de la porte pour apercevoir, non pas mes parents, tiens pardi, mais les Bazin eux-mêmes, Jeannine et André, à qui l'on refusait le permis de visite et qui avaient eu l'idée d'ouvrir la fenêtre d'un escalier et de crier mon nom.
Quand il était au trou, Truffaut n'attendait certes pas ses parents. La rupture avec sa mère était peut-être encore plus complète que la rupture avec son père, qui l'avait placé au nom de cet antique droit de la correction paternelle dans une maison de jeunes délinquants.
Oui, Truffaut, dans un premier temps, avait volé une machine à écrire. Il retracera cet épisode-là. Et ensuite, dans un second temps, il a fait de nouveau de la prison 2 ans après, parce que là, il avait déserté, oui, de l'armée. Donc,
parce que sur un coup de tête, en 1950, il avait précédé l'appel et oui. Il s'était engagé en Indochine, parce que la prime qui allait avec l'engagement en Indochine lui aurait permis peut-être de rembourser ses dettes.
Oui, peut-être.
Attendez, les dettes, c'est pas le vol, c'est la machine à écrire. Il avoue d'ailleurs dans une lettre que lui a obligé son père à écrire, qu'il y en avait d'autres. Et puis alors, les dettes, ça tient en particulier au fait qu'à l'âge de 16 ans, il se met à animer un ciné-club.
Oui, il a créé le Cercle Cinéman et puis il lance comme ça des titres de films dont il n'a pas absolument la copie. Donc il se dit au dernier moment, je vais toujours me débrouiller, je vais convaincre Langlois de me prêter une copie ou Cocteau d'arriver avec sa copie du Sang d'un poète sous le bras. Et évidemment, ça ne marche pas puisque on peut pas mélanger un réseau effectivement non commercial et un réseau commercial. Et ça, il a pas intégré ça. Donc tout ça va capoter très vite.
Les ciné-clubs, c'est très important pour la diffusion des films, surtout que les journaux à l'époque ont leur papier contingenté, tandis que les ciné-clubs, ça peut durer tout le temps qu'on veut. Et un grand animateur, fédérateur de ciné-clubs, c'est André Bazin, on y vient.
Ouais.
Et en novembre 48, au moment du ciné-club Truffaut-Cluny, le petit Truffaut va voir André Bazin.
Oui, tout de suite, il est fasciné par cette figure, hein, ce savoir, cette façon de transmettre. Alors, c'est curieux parce que Bazin était affublé effectivement d'un défaut de langue et qui servait encore plus, je crois, l'intensité de ses propos qui faisait qu'on l'écoutait encore plus intensément. Et pour Truffaut, ça va devenir très vite un père de substitution, quoi. Il se focalise sur cette figure-là et il va plus lâcher, quoi.
Le ciné-club de Truffaut a capoté. En revanche, en 1949, quelques mois après la rencontre Bazin-Truffaut, la première rencontre, Objectif 49, le ciné-club fédérateur qui va regrouper peu ou prou les meilleurs réalisateurs comme Bresson et les meilleurs critiques, multiplie les faits d'armes et ainsi la création, avec Cocteau à sa présidence, vous parliez de Cocteau, du festival du film Maudit en juillet 1949. La voix d'André Bazin, bon, on l'entend pas bégayer, là, vous allez voir.
Bien, mon cher Bazin, voulez-vous très rapidement lever un coin du voile sur ce festival du film Maudit dont on attend beaucoup et qui est une des premières manifestations, je crois, d'Objectif 49 sur le plan de l'organisation des festivals?
En effet, le festival du film Maudit, le mot est assez joli, nous attendons par film maudit évidemment les films qui ont un intérêt esthétique, mais qui sont maudits soit par le public qui ne l'a pas compris tout de suite leur valeur, soit par les producteurs qui ont tout fait pour empêcher que ces films se fassent. Et c'est à ces genres de films-là que nous voulons redonner une consécration que les festivals normaux ne peuvent guère leur donner, car, ceci dit, sans dire de mal des festivals normaux, il reste que les films qu'on y présente sont des films dont on attend quelque chose sur le plan de l'exploitation ensuite. Tandis que nous avons fait notre choix en toute indépendance et selon des critères purement intellectuels et artistiques. Et aussi, suivant la ligne de critique de Objectif 49, veut essayer de définir et de défendre une avant-garde moderne, c'est-à-dire une avant-garde qui n'est pas celle de 1925, qui nous paraît avoir été tout à fait utile, mais maintenant périmée, et une avant-garde qui est vraiment ce qui fait avancer le cinéma à l'heure actuelle.
Pas un micro de Claude Jean-Philippe, c'est vrai, maintenant que vous l'avez signalé, on le voit hésiter sur ce maudit mot. de maudit.
Oui. Ouais.
Il parlait tout le temps, Bazin,
oui.
D'abondance.
Tout le temps. Et on se demande comment il a trouvé le temps en si peu de temps. Je crois que c'est 15 ans, hein, sa période d'activité professionnelle, de faire autant d'animations de ciné-club, de faire autant d'articles dans des quotidiens, des hebdos, des mensuels. Ça devait être un bourreau de travail pour arriver à produire autant de textes.
Jeannine, son épouse, et André hébergent longtemps le jeune Truffaut qui un jour dit bah, « je pourrais peut-être faire des papiers sur le cinéma ». Bazin collabore au Cahier du cinéma, c'est là que naturellement il va voisiner avec André Bazin.
Alors Truffaut va commencer à écrire un brouillon d'articles qui deviendra une certaine tendance du cinéma français, mais l'incubation va être longue, hein, parce que ça va durer 2 ans, quoi. Hein, donc il soumet sa copie à Bazin, qui lui dit non, c'est trop méchant, il faut un peu atténuer, il faut rajouter en contrepoint des cinéastes que vous avez envie de défendre. Donc la genèse est très longue, mais quand l'article sort en janvier 54, c'est un coup de tonnerre dans le cinéma français.
Il critique la tradition de qualité. Voilà. Delannoy,
voilà, les Delannoy, les Autant Lara,
Orange et Bost,
voilà,
qui
tout
sont
cela,
des scénaristes. Il va écrire dans d'autres journaux, et notamment dans Art. Alors vos chroniques, là, chez Gallimard, ce sont des chroniques d'art.
Oui, parce que j'avais à cœur de transmettre effectivement cette part absente, c'est-à-dire que Truffaut collabore à une dizaine de revues ou journaux, mais il y a deux grands titres parallèles à la même période. Donc c'est Les Cahiers d'un côté, qui est un peu l'incubateur des théories politiques des auteurs et tout ça. Et puis le journal Art, qui est un hebdomadaire beaucoup plus visible, beaucoup plus grand public, qui va donner une vitrine, une visibilité aux théories donc incubées au cahier. Et là, Truffaut va travailler différemment, hein. Il va être obligé de raconter le film. Donc c'est un exercice qui est difficile pour lui au début. Et en étant obligé de raconter le film à ses lecteurs, il s'aperçoit des lacunes, effectivement, dans l'écriture scénaristique. Et il dit qu'en fait, ça a été sa meilleure école.
Parce que la critique, c'est une description de description dans un journal grand public.
Oui, mais en même temps, il est obligé de se coltiner avec les nœuds, effectivement, du récit. Il voit bien, effectivement, qu'il y a des moments où ça coince et puis ça fonctionne pas, quoi. Donc ça va lui servir vraiment.
Tandis que par Bazin, il avait été habitué à analyser plutôt les plans.
Oui, c'était plutôt effectivement une analyse esthétique, parfois teintée effectivement d'une dimension un petit peu plus centrée sur la spiritualité, comme les articles de Bazin. Mais effectivement, la différence majeure entre les deux, c'est qu'effectivement, Bazin était vraiment un écrivain, Truffaut était vraiment un pamphlétaire. Il disait, moi, ce que j'aime, c'est effectivement plutôt détruire que défendre, quoi. Hein. Il avait ce côté, c'est ce que Laurent avait appelé la critique au sens furieux, quoi. Hein, le côté, effectivement, démolisseur, quoi. Hein.
Alors, Jacques Laurent, c'était le directeur de l'hebdomadaire Art. Passez-moi Truffaut, il y a une scène comme ça dans un film de l'époque. C'est au service des risques.
J'étais quelqu'un qui avait vu un film. Enfin, j'aimais 4 films par an. Donc, un film de Bresson, un film de d'Ophuls et de Tati. Et puis, le reste, c'était vraiment des trucs genre, je sais pas, Le Rouge et le Noir, qui est tellement immonde encore aujourd'hui. Je continue à haïr ce film. Mais il fallait rendre compte de ça. Et comme je savais que j'étais violent, mais qu'il fallait donner des arguments, absolument. Et c'était impérieux, c'était important. Donc, il y avait une discipline journalistique, là. Et justement, dans cette période d'art, ce qui est assez curieux, dans cette période de journaliste art-spectacle, je ne me suis pas rendu compte, par exemple, que je devenais très connu dans les milieux de cinéma, simplement parce que j'étais haï. D'ailleurs, il y a des tas de gens qui rêvaient de me rencontrer, de me donner une paire de gifles. Mais je ne le savais pas, puisque je ne voyais personne. Je l'ai su pour la première fois par Rossellini, je crois. Voilà. Ou alors par Jacques Laurent, qui dirigeait le journal aussi, et qui riait, parce qu'il me défendait beaucoup, mais Jacques Laurent disait, la maison Gaumont m'a promis un budget de publicité si je vous fous à la porte.
Oui, enfin, il savait quand même qu'Autant Lara, Le Rouge et le Noir, le traitait de jeune voyou.
Oui. Les invectives étaient des deux côtés. Hein. Truffaut disait c'est un boucher qui s'acharne à faire de la dentelle. Enfin, voilà, il y avait des deux côtés, ça fusait très sévère quand même. Hein.
Et on parle beaucoup de Viollet-le-Duc à cause de Notre-Dame ces temps-ci. À propos des adaptations littéraires de Orange et Bost, les fameux scénaristes, Il disait, ben, c'est comme violer le duc.
Oui, il y avait cette idée de découper en tranches hein, tous les grands romans de la littérature française, de travailler un petit peu la psychologie, de plaquer effectivement des diatribes comme ça, anticléricales, qui souvent n'avaient aucun rapport avec le roman. Ça, c'était la veine d'Orange, évidemment. Et puis, voilà, donc, une grande déception quand ils voyaient le résultat. Donc, le Rouge et le Noir est le pire exemple.
Je veux pas dire, puisqu'on explore les différences entre Bazin et Truffaut en même temps que leur ressemblance, Bazin, anti-stalinien, était à gauche, oui, d'origine catholique, mais travaillant en milieu laïque. Le jeune Truffaut n'avait pas d'admiration pour la résistance, non plus que pour tous les adultes contemporains, et il correspondait avec Lucien Rebattet, « Je suis partout ». En prison à Clairvaux et à sa libération, le reconnaissant comme un grand critique, il lui avait offert une balade sur la Seine.
Oui, c'est vrai que Truffaut a eu dans cette période-là des tentations droites, voire extrême droite, hein, puisque il s'inscrit vraiment dans la lignée des Hussards, hein, qui était vraiment accueilli à bras ouverts dans les colonnes d'art, hein, donc Léninier, Blondin, etc. Et puis, voilà, par un hasard de circonstances, il va rencontrer effectivement Rebattet. Ils vont un peu copiner, ils vont s'échanger. Rebattet lui envoie ses bouquins. Ils ont une tribune dans un journal qui s'appelle Dimanche Matin, hein, où collabore, c'est le cas de le dire, Rebattet. Ils vont faire une espèce de chronique pendant 4 ou 5 dimanches. C'est un peu le jeune et le vieux critique, hein, donc ils font une espèce de dialogue comme ça où chacun avance ses films préférés ou ses films détestés. Et Truffaut conseille beaucoup Rebattet. Il lui dit, il faut voir Le Bandit d'Ulmer. Il faut donc, il lui sert un peu de précepteur.
Un jour, on fera Rebattet et Truffaut critique de cinéma, mais aujourd'hui c'est Bazin. Truffaut critique de cinéma. J'aime 4-5 films par an, disait Truffaut, oui, il y a un instant.
Exagère
il
un
citait,
peu,
à côté de Bresson, Max Ophuls, 1955, Lola Montes, dont le prétexte est la vie d'une aventurière qui a été la maîtresse de Franz Liszt, et puis aussi celle du roi de Bavière, que la révolution de 1848 va déchoir, et elle se retrouve en utilité face à un public très vulgaire, dans des cirques américains où elle se produit quotidiennement.
Et voici, mesdames et messieurs, la vérité, rien que la vérité, sur la vie extraordinaire de Lola Montes. Première partie du spectacle, les questions. Posez des questions, messieurs, dames. Lola Montes vous répondra aux questions les plus choquantes, aux questions les plus intimes sur sa scandaleuse carrière de femme fatale.
Sous le chapiteau américain, donc, de Monsieur Loyal, Déloyal, c'est Peter Ustinov, et dans une sorte de cage, montré au public et censé lui répondre, c'est une vedette fugitive, mais importante, du moment, Martine Carole. Alors voilà ce que disent nos deux compères, le père spirituel et le fils adoptif.
Critique d'André Bazin pour la sortie de Lola Montes. L'année cinématographique s'est ouverte sur le dernier scandale de Lola Montes. Le genre et l'interprétation semblent, a priori, désignés comme une revue à grand spectacle, décorative et scabreuse. Mais c'est que je le tiens pour tout autre chose. Non pas une superproduction déshabillée et salace, mais une œuvre d'une folle audace, esthétique, échevelée, flamboyante, ironique et au demeurant d'une sombre moralité. Ce qui est vrai, c'est que Max Ophuls est fondamentalement un cinéaste baroque, non seulement par sa prédilection quasi fétichiste pour les angelots de bois doré et le pseudo-réalisme tourmenté du style jésuite, mais plus sérieusement pour sa façon d'exprimer l'essentiel par la prolifération de l'accessoire. Son objectif est en mouvement perpétuel dans un univers non pas tant abstrait que, si j'ose dire, céleste, comme si la caméra était munie des deux petites ailes encadrant ses angelots joufflus et sans corps qui voltigent autour des tabernacles baroques. Mais ce qu'elle voit est de plus toujours à demi caché, par la prolifération arborescente du décor, lequel s'interpose entre la caméra et les personnages, ainsi rendus prisonniers du luxe des apparences.
Posez vos questions !
Est-ce que sa mère était comme elle ?
Hein ? Objection ! Vous pouvez poser des questions sur Lola, mais pas sur sa mère. Remboursé.
Qu'est-ce qui est mieux ? L'amour ou l'argent ?
Mais les deux.
Que Lola porte un soutien-gorge !
Plus tard.
Bien
d'amant ! Oh, il y a une question là-bas. Répétez-la.
Bien d'amant, Lola !
Record du monde. Bonne question. Nous allons les compter ensemble.
Lola Montes par François Truffaut. L'image est si pleine, si riche, qu'on ne peut tout voir à la fois, mais l'auteur l'a voulu ainsi, allant jusqu'à offrir à nos oreilles plusieurs conversations simultanées. Le texte que nous saisissons par bribes, ce que nous en percevons nous aide à reconstituer le reste comme dans la vie, est d'un savant laconisme. Les personnages ne résument pas les situations avec des formules élégantes, et s'ils souffrent, cela se voit, mais cela n'est pas dit. Voilà bien le dialogue le plus intelligent et le plus juste jamais entendu dans un film français depuis celui du Zéro de conduite de Jean Vigo, dialogue strictement utilitaire et du type « Passe-moi le sel, voilà, merci ».
Alors pour la comparaison qui nous occupe, on a la chance maintenant d'avoir la publication par Macula des écrits complets d'André Bazin, la publication chez Gallimard, par vos soins, Bernard Bastide, des chroniques d'art spectacle de Truffaut. Celle-ci date de 1955. Comparaison.
Ben, ils sont très proches. Hein. Ils soulignent effectivement le côté baroque. Ils soulignent effectivement la structure très, très innovante avec ses flashbacks. Ils soulignent effectivement la capacité de d'Ophuls de nous amener effectivement sur des territoires inattendus, de travailler le son stéréophonique, de travailler effectivement l'image couleur en scope. Ça, c'est bon. Ils ont écrit tous les deux plusieurs articles hein, sur ce film-là. Donc, mais autant Truffaut est un admirateur inconditionnel depuis le début d'Ophuls, s'il a failli être son assistant d'ailleurs sur le Lola Montes, autant avec Bazin on revient de loin parce que le plaisir, il parlait de main autrichienne à propos du film. Madame Deux, il trouvait que c'était enrubanné de travelling. Donc il avait du mal quand même Bazin avec ce côté très baroque hein, d'Ophuls, alors que Truffaut a expliqué très bien dans un texte qu'en fait le côté travelling, en fait, ça fait partie de façon intrinsèque de l'écriture véritablement d'Ophuls, et ça aide ces acteurs parce que ça leur permet effectivement de ne pas penser au plan, hein, ils montent des escaliers, ils tournent dans des couloirs et tout ça, et à ce moment-là, ils jouent juste parce qu'ils n'ont pas à réfléchir sur ce qu'ils sont en train de faire.
Quand on pêche dans les écrits complets de Bazin, parfois, j'ai trouvé ça par hasard, il écrit « Je ne suis pas François Truffaut qui dit ». Et quant à Truffaut, il lui est arrivé d'expliquer que Bazin se trompait souvent, peut-être plus souvent qu'Éric Rohmer, parce que Éric Rohmer se voulait artiste, disait François Truffaut.
Oui, je sais qu'ils ont ferraillé sur beaucoup de points. Par exemple, sur la politique des auteurs hein, que Truffaut a tant défendu, Bazin fait beaucoup de réserves hein, sur cette politique des auteurs prônée et défendue par Truffaut. Il y a un texte célèbre hein, qui s'appelle « De la politique des auteurs » que Bazin publie dans les Cahiers du cinéma. Alors, il juge cette politique des auteurs féconde, utile, etc. Mais il dit quand même « La négation de l'œuvre au profit de l'exaltation de son auteur, c'est le risque majeur hein, pour lui. »
Bazin, se voulait-il auteur, il avait un projet de court-métrage sur les églises romanes de Saint-Onge au moment de sa mort, tandis que un court-métrage, Truffaut en réalise un très vite dans votre bonne ville de Nîmes. Vous avez d'ailleurs consacré à ce court-métrage un livre, Atelier Bay, un livre intitulé « Les Mistons ». Les Mistons, c'est une petite bande de redoutables garnements du côté des arènes et des quais.
La sœur de Jouve était trop belle. Nous ne le supportions pas. Elle roulait toujours jupe flottante et assurément sans jupon. Bernadette était pour nous la découverte prestigieuse de tant de rêves obscurs et de nos imaginations cachées. Les mouvements d'un cœur virginal relèvent d'une logique propre à l'enfance. N'ayant pas l'âge d'aimer Bernadette, nous décidâmes de la haïr et de tourmenter ses amours. L'un de nous, dans une librairie, acheta une superbe carte postale représentant deux amoureux à peine vêtue, vautrait sur un lit de débauche.
Hé, hey, qu'est-ce que je vais mettre?
Que Bernadette était tout nue dans ses bras.
Oh,
oh, ah, souvenir de nos folles nuits d'ivresse.
Nous signâmes victorieusement de ce seul nom qui nous vengeait tous, les Mistons.
Et alors, vous soulignez dans votre livre, Bernard Bastide, je note que vous avez perdu l'accent qu'on avait en 1957.
Hein. Ah, peut-être.
vous ne manquez pas de signaler que les Mistons, ils déchirent une affiche de film sur leur passage. Et c'est quoi?
C'est Chien perdu sans collier. Donc, il y a une continuité entre le Truffaut critique et le Truffaut cinéaste.
C'est du Delannoy.
C'est du Delannoy. Et les gamins chantent collier, perdu, sans chien.
Ah ouais, vous n'avez pas perdu. En revanche, votre voix chantante, et c'était un scénario de l'épouvantable Cesbron, écrivait Lucien Rebattet. Il voit, Bazin, ce film, ce court-métrage, il le soutient. Et Truffaut entame le tournage de son premier long-métrage. C'est un petit peu dans le sillon des Mistons. Hein.
Oui.
Mais c'est lui.
C'est la thématique de l'enfance, toujours, de l'écriture, etc., qui est toujours au cœur. Les Mistons, c'est une bande-annonce hein, de l'œuvre à venir. On y retrouve les enfants, l'écriture qui brûle, les couples menacés. Et on a déjà toute l'œuvre à venir.
Et Doinel, il lui arrive dans des films postérieurs, Doinel, Léo, d'ailleurs, de citer le nom de Bazin ouvertement dans des films postérieurs de Truffaut. Le tournage commence le 10 novembre 1958. Il est extrêmement inquiet, hein, Truffaut, nerveux.
Oui. Oui, il sait que Bazin est très très malade, que voilà, c'est les derniers instants, et il va se rendre à son chevet quasiment pour recueillir son dernier souffle.
Donc, le soir du premier jour de tournage.
Ouais.
Et il se met en deuil jour de l'enterrement. Nécrologie de Bazin par Truffaut. On voit ça dans...
J'ai choisi de finir avec
dans votre livre chez Gallimard.
J'ai choisi de finir le recueil de textes avec ce texte-là, parce que c'est un texte magnifique, hein, où Truffaut dit tout ce qu'il doit à cet homme et qui décrit comme une espèce de saint laïque. Et c'était effectivement l'idée d'avoir un texte un peu symbolique, hein, qui marque véritablement le passage de relais. Truffaut continuera à écrire de façon plus sporadique ensuite dans Art, mais ce texte-là scelle quelque chose. Hein. Il y a un passage de relais qui se fait, Bazin meurt, Truffaut commence son premier long-métrage, voilà. Il y a une page qui se tourne, il y a un événement qui se noue comme ça ce jour-là. Quoi.
Mais vous sentez la continuité? Truffaut publie les recueils de Bazin. Il y a deux ou trois recueils d'articles qui ont été publiés par Truffaut. Oui. Et vous, qui avez vu votre deuxième film du cinéma de Truffaut, vous publiez Truffaut.
Oui, c'est sûr qu'on est plein de passeurs comme ça. Hein. Moi, toute ma vie, j'ai cherché des passeurs, des relais de culture. Voilà, parce que je trouvais pas forcément dans mon entourage proche, donc j'allais chercher effectivement des enseignants, des pédagogues. Donc on est tous dans ce système de transmission.
Donc le livre édité par Joubert Laurencin chez Macula, Les Écrits de Bazin et vos chroniques de Truffaut chez Art Spectacle aux éditions Gallimard et Linka Negulesco a préparé cette émission. Renan Mahé à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation.